集老顶。
Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Lubumbashi, Dieudonné Tarsis Kanyambamba Yabo est l'invité de grands témoins. Bonjour Dieudonné Tarsis Kanyamba.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Je me porte bien.
Vous voyez le jour le 23 avril 1962 à Likasi dans le Katanga. Et vous êtes sixième d'une famille de sept enfants, dont six filles. Quel genre d'enfant étiez-vous? Turbulent, obéissant ou grand dérangeur?
J'étais turbulent.
Est-ce qu'on peut avoir une anecdote de votre turbulence pendant l'enfance?
J'étais un garçon très curieux. Pour les jeunes de mon âge, je paraissais très éveillé. Et j'étais taquin. J'aimais bien amuser les gens. Voilà un peu.
Beaucoup de gens vous connaissent sous le nom de Tarsis Kanyambamba Yabo. Pourquoi préférez-vous celui de Dieudonné?
Je préférais celui de Dieudonné parce que c'était mon second nom de baptême. En même temps, j'ai pensé que il fallait me débarquer un peu de mon père parce que je portais entièrement le nom de mon père. J'ai ajouté le nom de Dieudonné pour faire le distinguo entre Kanyama Tarsis, mon père, et Kanyama Dieudonné que j'étais.
Kanyambamba Yabo veut dire quoi?
Kanyama, donc, je sais pas, c'est le diminutif hein, de l'animal, n'est-ce pas? Et Mbayabo, bon, littéralement, signifie leur mari.
Ah, ça veut dire un animal qui soit marié aux femelles.
Un animal dans un troupeau de femelles, quoi.
Voilà. Et là, nous avons dit que vous étiez sixième et que l'unique garçon parmi les sept filles. Est-ce à dire que vous étiez le plus foyer de vos parents?
Il faut reconnaître quand même que j'ai arraché une grande partie de l'affection de mes parents, c'est vrai, par rapport à l'ensemble de la famille.
Vos études primaires et secondaires, vous avez fait à Likasi, anciennement appelée Jadoville. Jadoville qui était la ville la plus coquette du pays. Quel souvenir gardez-vous de cette ville qui s'émeut en ce jour?
La Jadoville, la coquette ville, la ville montagneuse de Likasi, c'est une ville qui emporte beaucoup de mes souvenirs de ma jeunesse. Et cette ville, je crois, je garde le souvenir que c'était une ville où nous avons évolué, en tout cas dans une grande civilisation. Donc, on n'était pas très complexés, mais on était des gens vraiment très à la mode, quoi. C'est une ville qui se meurt aujourd'hui, hein. On n'a pas de repère de nos souvenirs d'enfance par rapport à Jadoville. Mais ça emporte encore les vestiges de notre enfance. On pense quand même un jour... cette ville, on pourra la faire porter sa belle robe, quoi.
Et à Likasi, vous aviez des grands amis, on peut avoir les noms de vos amis d'enfance, deux ou trois?
Je peux citer Kayumba Seti, je peux également citer d'Olivera Antonio. Bon, ce sont des amis d'enfance. Il faut dire quand même qu'avec le temps, nous avons eu à nous rencontrer les anciens de Likasi, de Jadoville, quand j'étais à Kinshasa. On se rencontrait par moments. À Lubumbashi, depuis que je suis là, bon, on se voit vraiment pas de manière très structurée, quoi. Mais occasionnellement, comme ça, bon. On se voit.
En 1981, vous décrochez votre diplôme d'état en section pédagogique et pourtant quelques années avant, vous êtes passé par l'électricité. Comment expliquez-vous ce revirement?
Il faut dire d'abord que mon père, c'était un fonctionnaire. Il était le chef de travaux publics à l'ICACI. Vous voyez, il a voulu que je fasse la technique parce que lui-même, c'était un technicien. Malheureusement, vous comprenez que c'était pas tellement ma vocation. J'ai dû faire un revirement pour rentrer là où je devais. En principe, je devais faire le littéraire. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de m'inscrire à temps. C'est ainsi que j'ai embrassé les humanités pédagogiques.
Sans mort dans l'âme.
Oui, vraiment, l'âme était fendue.
En 1981, donc, vous continuez vos études à l'université de Kinshasa. En arrivant à Kin pour la première fois, comment s'est faite votre intégration?
On était quand même complexés, il faut dire, hein, par rapport aux amis kinois. Vous savez, nous, les enfants qui ont grandi au Katanga, nous avons grandi ou évolué dans une certaine discipline. Hein. Nous, on aimait des choses, c'était la droiture, la logique, bon, ça nous caractérisait, quoi. Par rapport aux Kinois qui vivaient leur vie, ils étaient très éveillés par rapport à nous. Et nous sommes intégrés timidement, mais pas facilement, mais timidement, on a pu quand même assurer nos premiers pas et finalement, nous nous sommes complètement intégrés. Au bout de 6 ans, nous sommes complètement intégrés à Kinshasa.
Et l'état complet ne vous a plus en manquer?
Malheureusement, je ne suis pas friand du Boukari. Hein. J'aime le riz, les pommes de terre et tout ça. Bon, c'est comme ça. C'est depuis ma jeunesse, le Boukari, je le mange à peine.
En 1987, vous obtenez votre licence en droit, option droit privé judiciaire. Vite, vous gagnez la ville de Kolwezi et là, vous travaillez au ministère des Droits et Libertés des Citoyens. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce ministère et à Kolwezi?
Quand nous avons terminé, je crois qu'on venait de créer le ministère des Droits et Libertés des Citoyens, qui était dirigé à l'époque par Maître Nini Maïdi Kandini, l'ancien directeur de cabinet du président de la République et devenu ministre des Droits et Libertés des Citoyens. En ce moment-là, on avait des représentations autonomes. Nous traitions directement avec Kinshasa, donc Kolwezi, c'était une représentation autonome qui n'avait aucune dépendance vis-à-vis de Lubumbashi, chef-lieu de la province. Donc on était là en traitant directement avec Kinshasa, mais c'était quand même une bonne expérience à l'époque parce que nous étions les pionniers du ministère des Droits et Libertés citoyens. Mes premiers pas professionnels ont commencé par là.
Et en 1990, vous prenez votre inscription au barreau de Lubumbashi comme avocat stagiaire. Votre travail au ministère ne vous a-t-il pas satisfait pour que vous puissiez, une fois de plus, connaître ce régiment?
Il faut dire qu'on était un peu tenté parce que il y a beaucoup de mes collègues qui étaient au barreau. Ben, je me suis inscrit au barreau de Lubumbashi, mais je travaillais à Kolwezi. Mais comme à l'époque, à Kolwezi, il n'y avait pas beaucoup d'avocats, mon maître de stage était Maître Kitobo, Convidier. C'est lui qui m'a encadré dans l'avocature. J'ai quand même été heureux de cette expérience au barreau et aux droits et libertés citoyens.
Et depuis un certain temps, on est en train de décrier la baisse du niveau des étudiants qui sortent de notre université, surtout ceux qui font le droit. À votre niveau, quelle serait votre lecture quant à ce?
Bon, je suis de ceux-là qui décrit aussi les niveaux aujourd'hui des étudiants, parce que il se développe une certaine proximité que je n'arrive pas très bien à m'expliquer. Quand j'étais étudiant, je connaissais pas, en tout cas, le domicile de mes professeurs. Et c'était des grands professeurs. Et pour la plupart, c'était des gens bien installés au gouvernement. Ils avaient des postes ministériels et on avait beaucoup de considération pour eux. Jusqu'à un certain niveau, je considérais mes professeurs comme des petits dieux. Il y avait vraiment un écart entre eux et nous. On n'avait qu'un seul point commun, c'était la science. En dehors de ça, il n'y avait rien entre nous en tant qu'étudiants et professeurs. Il faut dire que nous avons réussi à l'université par un travail ardu et un travail personnel. Mais aujourd'hui, vous voyez les étudiants, combien de fois je suis ici, les étudiants viennent me demander d'intervenir à l'université pour qu'on améliore les cotes. C'est écœurant, c'est choquant, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a une crise structurelle, c'est vrai, mais elle ne peut pas emporter certaines valeurs qu'on doit préserver pour l'enseignement.
Chef d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Grand témoin de ce jour reçoit le procureur de la République pour le tribunal des grandes instances de Lubumbashi, Dieudonné Tarsis Kanyama Mbayabo. Pendant que vous avez frappé à la porte du barreau de Lubumbashi, vous étiez en même temps avocat conseil dans plusieurs entreprises, dont la Gécamine et Baron l'évêque international. Il faut dire que vous n'avez pas connu le chômage dans votre vie, Tarsis Kanyama.
Non, je crois que déjà quand je suis entré au barreau, j'étais jeune en ce moment-là, mais comme il y avait carence des avocats à Kolwezi, j'ai eu une faveur exceptionnelle parce que en ce moment-là, je faisais partie de la Ouarta, la Terre 5 qu'on appelait Table Ronde. C'était un club où de gentlemen se retrouvaient, chacun venait avec le témoignage de sa profession. Et à cette occasion, j'ai connu Monsieur Yolo, qui était un des grands directeurs de la GKMI. Comme on était dans un club, là, il m'a découvert, il a tôt vu mes talents, et puis, bon, il m'a approché, il m'a dit, mais écoutez, nous avons des problèmes, on perd beaucoup de procès à la GKMI, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez travailler avec nous?
Vous en avez gagné combien?
Bon, j'en ai gagné quand même quelques-uns.
Et pendant ce temps, vous avez passé 12 ans, soit de 1987 à 1999, comme conseiller juridique du prophète Kadima. Qui vous a amené chez les Bakouzi?
Écoutez, ça c'est, j'ai reçu la vocation très jeune, et le prophète Kadima, c'est un père spirituel pour moi. Il m'a encadré, il a encadré mes premiers pas dans la spiritualité. Je garde de très bons souvenirs. J'ai donné aussi le meilleur de moi-même à ses côtés pour travailler avec lui. Il m'appréciait beaucoup.
Nous avons dit tantôt que votre vie est jalonnée de beaucoup de revirements. En 1993, vous quittez les barreaux pour la magistrature, et cela en Boujimaï, dans les Kassai orientales. Apparemment, vous semblez être un éternel insatisfait de Donné Kanyama.
L'homme est éternellement insatisfait. Il se découvre au jour le jour. Eh bien, vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est cette somme d'expérience, c'est que, bon, le destin vous mène tantôt à gauche, à droite, vous prenez l'ascenseur et soit vous descendez à pied, et tout ça. Et ça fait la beauté de la vie aussi, non?
Qu'est-ce qu'il y a de profond dans la magistrature au point de vous attirer comme ça?
J'ai eu un choc. Quand j'étais au barreau, on m'a menacé en fait de m'arrêter. J'ai vu des avocats arrêtés. Ça m'avait beaucoup choqué. C'est ce jour-là que j'avais pris la décision d'aller du côté du pouvoir. Parce que,
bon, pourquoi? Pour vous venger ou pour continuer également à arrêter ceux qui arrêtent?
Non, mais parce que je pensais quand même que c'était une profession qui me sécurisait. J'ai aimé la magistrature. En fait, il y a aussi un autre élément qui m'a beaucoup frappé. Quand j'étais très jeune, et là, j'ai même le témoignage de mon professeur de psychologie. Déjà, à l'époque, j'écrivais sur mes notes. J'écrivais magistrat sur mes notes. Et lui m'a demandé pourquoi. Parce qu'il y avait un substitut du procureur de la République à Likassi qui s'appelait Babaka. Cet homme m'avait beaucoup marqué. C'était un magistrat modèle. Il craignait Dieu et c'était un homme que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est en fait lui qui m'a donné le goût, en fait, de la magistrature. Comme on dit toujours, hein, il y a l'inconscience. C'est parti dans l'inconscience. Mais après, bon, je suis passé par le barreau, ben, j'ai appris quand même des choses au barreau. Après, je me suis retrouvé dans ma peau naturelle comme magistrat.
Et pourtant, les magistrats sont également décrits ici à Lubumbashi, notamment dans différents dossiers où on les trouve pas toujours avec des mains propres et tout. Et c'est la magistrature que vous êtes en train de diriger ici à Lubumbashi, monsieur le procureur.
Justement, la magistrature est décriée, mais cette magistrature, elle a besoin quand même des hommes qui doivent la relever. Et ces hommes doivent en avoir la vocation.
Et parmi eux, c'est Donné Kanyama.
Je dois lui compter.
Ben, il faut dire qu'en Boujimaï, vous avez gravi différents échelons au point d'être procureur, et de Boujimaï, vous êtes allé à Kikwit, de Kikwit à Lubumbashi. Nous nous sommes rendus à votre bureau, et là, nous avons recueilli les avis de certains de vos collaborateurs. Suivant. Nous sommes là au parquet du tribunal des grandes instances de Lubumbashi. Nous sommes pratiquement dans le bureau où nous trouvons un monsieur. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur. Je me nomme André Motombo. Je suis le secrétaire particulier du procureur de la République près du tribunal des grandes instances de Lubumbashi.
Le procureur, quand est-ce qu'il arrive au travail?
Il est là toujours à 8h30. Et même un peu légèrement en France.
Et dès qu'il arrive le matin, qu'est-ce qu'il fait?
C'est le tour des cabinets pour savoir si les magistrats sont déjà là. Il retourne à son cabinet et commence à recevoir le rapport des magistrats.
Et s'il arrivait qu'il remarque qu'il n'y a pas de magistrats présents dans leur bureau, lorsqu'ils viennent en retard, quelle est son attitude?
Et il est toujours inquiet, il en arrive jusqu'aux sanctions. Et des fois, il renvoie même les magistrats s'il arrive en retard.
Par rapport à vous qui travaillez avec lui, comment est-ce que vous pouvez bien le juger?
Je trouve qu'il est travailleur. Depuis qu'il est là, je peux énumérer certains bienfaits de sa part, notamment le fait d'avoir organisé les audiences publiques tous les dernier et premier mercredi du mois. Il reçoit les justiciables en audience libre sans trop de conditions protocolaires. Alors là, chacun peut exposer son problème ainsi de suite et il essaie d'y trouver des solutions. De deux, je veux parler de l'amigo du cachot de la police criminelle. Il a fermé parce qu'il a trouvé que ses semblables étaient dans des conditions inhumaines et jusque-là, le cachot est en réflexion et je trouve que c'était déjà beaucoup de tata. C'est une grande première au parquet de grande instance.
Alors, qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez lui?
Bon, je crois que c'est une qualité, mais que je n'apprécie pas très bien, c'est qu'il est très colérique. Tout de suite, quand il y a une erreur, il y a un défaut, il vous repose sans tenir compte de l'environnement. Et c'est un peu frustrant pour certains.
De donner ta fille, Kanyama Mbayabo, je vous ai vu tout à fait attentif. Et... qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit?
Je retiens qu'il faut toujours faire attention des autres, quoi. Parce que même de manière inattendue, ils peuvent toujours porter un jugement sur vous.
Et c'est pas tout. Nous avons joint quelqu'un au téléphone pour vous. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Nous avons avec nous le procureur de la République de Donné Kanyama. Comment est-ce que vous appréciez son travail?
Bien, monsieur, bien. Il est mon chef, il travaille bien et j'apprécie beaucoup sa technicité. Hein. Il nous donne toujours des bonnes orientations dans l'instruction des dossiers et puis il est du genre à responsabiliser chacun devant le travail qu'il lui donne.
Avant que nous puissions continuer, monsieur le procureur,
savez-vous de qui il est question? Si je ne m'abuse pas, je crois que c'est le premier substitut du procureur de la République, Ilunga Mitunga.
Voilà. Monsieur le procureur, connaît bien la voix de tous ses collaborateurs. Alors, premier substitut Ilunga Mitunga, qu'est-ce que vous n'appréciez pas vraiment chez les procureurs de Dieudonné Kanyama? Quoi, la remarque qu'il pouvait lui faire, qui peut l'aider vraiment à aller de l'avant parce que vous l'appréciez davantage?
Vous savez, sincèrement, je ne sais pas dire ce que je n'apprécie pas chez lui. C'est quelqu'un qui est venu avec sa méthode de travail. Nous qui avons évolué pendant l'empêche à Lubumbashi, nous avons connu plusieurs procureurs. Lui est venu avec sa méthode de travail que nous apprécions. Quant à dire les défauts, je ne pense pas. Il reproche tout le monde quand il y a des fautes, il sanctionne quand il est faux, mais c'est un homme avec un grand cœur. Hein. Il conseille, il est bien d'une manière générale. Il nous forme parce que il nous met chacun devant ses responsabilités. Hein.
Et pourtant, il n'est pas parfait.
Bon, nul n'est parfait, chacun ses défauts et ses qualités, mais c'est que moi, je vois en lui plus les qualités. Hein. C'est vraiment un homme social, il a porté beaucoup d'innovations au quartier de Lubumbashi. Je ne sais pas si vous êtes informé de la porte ouverte au quartier des grandes défenses de Lubumbashi, chose qui n'a jamais existé. Et il y a des jours où les gens viennent poser leurs problèmes, leurs doléances. Il apporte solution, si ça le dépasse, lui aussi se réfère à sa hiérarchie et les choses marchent bien.
Avant que nous puissions continuer avec vous, et là je prends, monsieur le procureur, je suis ému parce que, vous savez, je découvre à travers cette émission que les gens peuvent s'exprimer librement. Je crois qu'il rend ses témoignages sans contrainte, quoi. C'est vrai, je prends positivement tout ce qui est dit, et même sur mon tempérament. Un homme doit avoir la capacité de se refaire. Et avoir cette capacité de se refaire, ça vous permet aussi d'acquérir la capacité de vous adapter à toute situation nouvelle. Quand vous pouvez le faire, je crois que vous êtes un homme utile à la société.
Premier substitut, Ide Mitunga, et vous êtes collaborateur du procureur de la République. Est-ce que vous pouvez lui dédier un chant? C'est lequel?
Ah, je sais que mon chef aime beaucoup les chansons des Bayouda du Congo. Hein? Je ne connais pas le titre, mais une des chansons des Bayouda du Congo, il aime bien.
Ide Mitunga, merci pour votre intervention.
Merci. I'm going to go to the hospital.
Nous allons continuer et nous allons promener notre micro à travers certains acteurs de la ville de Lubumbashi et pour recueillir certains avis de la population. Écoutons leurs préoccupations.
Ces derniers temps, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de cas de viol de petites filles ici chez nous à Lubumbashi. Concernant ces problèmes, je ne sais pas quel mesure vous avez trouvé pour mettre fin à ces problèmes.
Ok, merci le procureur. Il y a des gens qui on arrête comme des voleurs, mais après quelques mois, on les laisse encore. On les voit en cours de route.
Voilà, M. le procureur, vous avez suivi les préoccupations de la population. Comment est-ce que vous y répondez?
Je vais sérier les questions qui me sont posées. D'abord, la première série de questions, c'est en rapport avec les violences sexuelles. Et la deuxième question, c'est en rapport avec les voleurs qui sont tout de suite peut-être libérés et qu'on retrouve
en train de commettre les mêmes forfaits.
S'agissant de violences sexuelles, c'est vrai que considère cette forme de criminalité comme un fléau qui est en train de ravager sérieusement notre société et pour laquelle le législateur congolais a érigé des lois pour sanctionner sévèrement ce genre de comportement. Nous, en tant que garants de la loi, nous sommes, en tant que ministère public, les avocats de la société. Lorsque les gens se plaignent ou dénoncent certains faits, ils attendent de nous qui plaidons pour la société, pour le maintien de l'ordre public, qui est une certaine réaction par rapport à cette criminalité-là. Raison pour laquelle je préconise, en ce qui concerne les viols, lorsque les faits sont commis et qu'il y a des preuves, je pense qu'il y a lieu de déférer en flagrance ces cas-là.
Et vous le faites?
Oui, dernièrement je l'ai fait pour celui qui a violé une fille de 9 mois. La sanction est tombée immédiatement.
Mais monsieur le procureur, quand vous condamnez quelqu'un, vous dites qu'il doit payer 90 000 dollars américains et que cet homme est pauvre, pensez-vous réellement que la famille qui s'attend à recevoir ce montant l'aura un jour?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, prenons dans le cas d'espèce, le tribunal de grande instance de Lubumbashi a condamné le prévenu
à 20 ans de servitude pénale. Il a condamné, je crois, au paiement d'amende de 100 000 francs congolais. En fait, je crois qu'il a tenu compte de ressources de ce monsieur-là. On apprécie les dommages d'intérêt alloués. Parce que le monsieur, s'il est arrivé à commettre ce fait-là, il était en train de chercher un bonheur quelque part, où il est allé voir des féticheurs qui lui ont tracé des rites à suivre en passant par le viol.
Dédoné Kanyama, procureur près des présidents des grandes instances de Lubumbashi. La grande information à Lubumbashi en ce jour, c'est le viol d'une fillette de 9 mois par le concubin à sa maman. La maman s'est plainte, monsieur le procureur, qu'elle n'a pas d'assistance et que son enfant est dans un mauvais état. Que comptez-vous faire pour soulager cette maman-là?
Le procureur général et moi-même avions préconisé une visite pour réconforter cette famille-là. Nous avons pensé également les soutenir aussi avec des peu de moyens qu'on peut avoir. Mais dans l'entretemps, il y a une synergie des luttes contre les violences sexuelles. Et je crois qu'ils sont aussi organisés à ce niveau-là. La prise en charge aussi de victimes, c'est une des priorités auprès de cette ONG.
Et la deuxième catégorie de préoccupation, c'était les voleurs que l'on arrête aujourd'hui. Demain, on le retrouve libéré parce que le procureur aura fait un petit tour dans les cages chaudes en prison et il aura libéré certaines personnes.
Que je sache, je mets au défi de prouver qu'un seul instant, le procureur de la République a libéré un voleur qualifié. Ça, moi, je crois que je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Mais s'agissant de cette catégorie de personnes, des voleurs qualifiés, j'ai eu longuement à échanger avec le ministre de l'Intérieur à propos des voleurs, par exemple des câbles. J'essaie de le persuader sur le bien fondé de la procédure de flagrance en ce qui concerne ces voleurs des câbles, hein, les faussaires de notre économie. Vous voyez ? Mais avant, on perd un peu beaucoup de temps à prendre des gens, à les passer des chaînes de télévision pour les montrer. Mais tout ça, c'est bien les biens, les médias. Mais le problème, c'est que les faits viennent de se commettre. On a arrêté ces gens-là. Mais on vient directement avec eux. Parce que la procédure de flagrance, c'est une procédure qui requiert célérité. En cela, les gens vont se rendre compte que, effectivement, la justice existe. On va réprimer immédiatement. La sanction tombe et la personne sera en prison. Vous savez que il faut éduquer notre population. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire la part des choses. Une procédure ordinaire. Nous sommes respectueux de la loi et des procédures. La liberté provisoire, c'est la loi. C'est du ressort de la loi. Quelqu'un peut être arrêté, un voleur, s'il paye un cautionnement.
Est-ce que vous êtes obligé d'accepter ce cautionnement de la part de celui qui est poursuivi ?
Bon, vous savez, c'est la loi qui dit, on apprécie. Si le prévenu a une adresse connue et qu'il ne peut pas se soustraire à la justice, il peut continuer, même alors. Vous savez qu'il y a la présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous en faites ? Tout ça, ce sont des faits qui sont appréciés souverainement par le juge. Moi, je crois aussi quelque part qu'on doit faire confiance à la justice. Il ne faut pas penser que le fait que quelqu'un est en liberté, ça signifie qu'on a mis fin aux poursuites. Non, quelqu'un peut être en liberté, mais il continue à comparaître devant le tribunal. Jusqu'au moment où la décision du tribunal va tomber, le condamnant, en ce moment-là, il change de statut. Il devient un condamné. Raison pour laquelle, lorsque je vais en inspection à la prison, moi, je traite les cas des détenus préventifs. Ceux qui ont encore le dossier en instruction. Mais quelqu'un qui est condamné déjà à la prison, cet homme, il est condamné. Alors, les gens, je ne sais pas, les gens qu'ils voient sortir de la prison, est-ce les condamnés ou les détenus préventifs ? Mais je crois un condamné, il reste à la prison. Il doit purger sa peine à la prison. La seule possibilité qui lui est accordée par la loi, c'est lorsqu'il a purgé peut-être le trois quarts de sa peine, il peut éventuellement bénéficier d'une liberté conditionnelle, sous des conditions prévues par la loi.
Monsieur le procureur, l'information, c'est également la suspension de 11 OPJ de la police nationale congolaise. Qu'est-ce qui vous a poussé pratiquement à suspendre ces OPJ?
Vous savez que pour qu'on nous prenne au sérieux dans le travail que nous faisons, il faut qu'il y ait des sanctions. Dans notre pays, l'impunité est telle que ça décourage beaucoup de gens. Vous vous imaginez un peu, après avoir suivi des formations régulières organisées par la MONUC, organisées par des ONG de droits de l'homme pour les OPJ et tout ça, formés, vous voyez systématiquement les gens en train de violé la loi. Je crois quand même, quelque part, il faut qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas continuer à se comporter ainsi, d'où la nécessité, l'impérieuse nécessité de sanctionner ces OPJ.
Donc, ils vont plus jamais reprendre leur mission.
Non, au fait, nous retirons l'habilitation. Vous voyez, il y a des faits, on doit apprécier hein, des cas. Ça va jusqu'à 6 mois. Il y en a qui peuvent, pendant 3 mois, ils ne travaillent pas, comme OPJ. Mais il est policier, il peut porter sa tenue, hein, et se promener, vaquer à d'autres devoirs, par exemple le maintien de l'ordre. Ça, moi, je ne suis pas le patron de la police. Mais ils le sont responsables vis-à-vis de moi par rapport à leur qualité d'OPJ. C'est cette qualité que je leur retire qui leur permet de poser des actes d'instruction.
Ça n'est donc fini avec cette émission Grand Témoin. Grand Témoin qui vous a été présenté par Jean Gandou à partir de Lubumbashi et qui recevait les procureurs de la République de Doné Bayabo Tarsis. Merci, au revoir.